Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
C'est un monstre des mers que les experts égyptiens ne parviennent toujours pas à déplacer. Depuis deux jours, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde bloque le canal de Suez.
Le psychodrame n'aura duré finalement que quelques jours, sans impact fort sur le commerce mondial. Mais les malheurs de l'Ever Given et de son armateur dans les eaux du canal de Suez auront mis sur le devant de la scène les dysfonctionnements qui touchent le transport maritime un peu plus d'un an après le déclenchement de la crise sanitaire.
Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi le transport maritime ne marche finalement pas si bien que ça.
Voilà les gars de la marine, quand on est dans les cols bleus, on a faim et froid aux yeux. Partout, du Chili jusqu'en Chine, on les reçoit à bras ouverts, les vieux loups de mer.
Et oui, les marins ne comptent pas pour du pralin, le commerce maritime reste le maillon fort du commerce mondial. Il assure à lui seul entre 80 et 90% des échanges intercontinentaux de marchandises. Les bateaux transporteraient d'un continent à l'autre entre 8 et 9 milliards de tonnes de produits et objets divers chaque année. Ni les avions ni les trains ne semblent en mesure pour l'instant de concurrencer la mer. Et pourtant, le transport maritime serait aujourd'hui au bord de la crise de nerfs. C'est ce qu'a écrit Anaïs Moutot dans une enquête écrite pour les Éco-Weekends. Bonjour Anaïs.
Bonjour Pierrick.
Vous vous êtes rendu il y a quelques semaines au port d'Anvers, qui n'a rien à voir avec celui d'Amsterdam. C'est l'un des plus gros ports européens pour les marchandises ?
Oui, c'est le deuxième plus gros port européen de conteneurs, après celui de Rotterdam aux Pays-Bas. Donc il y a un peu plus de 12 millions de conteneurs équivalents 20 pieds qui ont transité par ce port belge en 2020. Ils transportent aussi bien des chaises de jardin, des robots de cuisine que des pièces pour les voitures ou les vélos. Et l'équivalent 20 pieds, juste pour préciser, c'est l'unité de mesure qu'on utilise dans le transport maritime. Ça désigne des conteneurs de 6 mètres de long environ. Donc c'est un volume très important à comparer avec Rotterdam, qui a un volume d'environ 14 millions de conteneurs équivalents 20 pieds.
À quoi ça ressemble un port comme celui d'Anvers ?
Alors c'est gigantesque, hein. Le port il s'étend sur 13 000 hectares à l'embouchure de l'Escaut, qui est ce fleuve qui part de France, qui traverse la Belgique et un tout petit bout des Pays-Bas avant de se jeter dans la mer du Nord. Et donc c'est un port qui est plus compliqué à naviguer pour les navires qu'un port qui serait situé en bord de mer. Donc il y a un gros travail de navigation, il y a plusieurs écluses, etc. Et pour les porte-conteneurs, il y a trois immenses terminaux avec des grues vertes gigantesques qui déchargent les navires, qui sont de plus en plus massifs, hein, comme l'Ever Given qui s'est coincé dans le canal de Suez. C'est des navires de 400 mètres de long. Donc moi, le terminal que j'ai pu approcher, c'est celui qu'on appelle le Dorgung Dock. Donc voilà, mon flamand n'est pas parfait. Qui a été construit en 2005 et qui est situé juste à côté d'un des plus grands sites logistiques d'Europe que j'ai pu visiter aussi. Donc il y a 28 entrepôts de 28 000 à 72 000 mètres carrés. Donc c'est gigantesque. Et donc les conteneurs, ils sont déchargés soit par rail, soit par barge en fait, qui les amène sur l'eau. Et après, les marchandises ressortent via un balai gigantesque de camions. Donc il y en a entre 1000 et 1500 qui viennent sur ce site chaque jour récupérer des palettes de marchandises. Et il y a aussi beaucoup de camions citernes, parce qu'Anvers, au-delà des marchandises, c'est un énorme port pour tout ce qui est pétrochimie. En fait, donc tout du long du port, on a les usines de Total, de Bayer, etc., avec d'énormes pipelines. Mais il y a aussi beaucoup de vrac sec, donc avec beaucoup d'échanges avec l'Amérique latine pour le café, le cacao, etc.
Pour qu'on se rende bien compte, le port d'Anvers, c'est une superficie de 129 km², hein, c'est plus grand que Paris intramuros. C'est, dit-on, le moteur de l'économie belge, puisque la zone portuaire pèserait 4,8% du PIB du pays, avec 144 000 emplois directs et indirects. Chaque jour, des milliers de conteneurs containers sont débarqués des navires. Il y passe 16 000 navires de fret chaque année, ça fait plus de 40 par jour. En tout, 190 millions de tonnes de marchandises, du boulot notamment pour les 6 500 dockers qui gèrent notamment le transbordement des containers. Je voudrais d'ailleurs faire une petite parenthèse, Anaïs. J'ai lu dans votre article que l'origine du conteneur est finalement assez récente.
Oui, en fait, on a commencé à utiliser des conteneurs dans le transport maritime qu'à la fin des années 50. Auparavant, on envoyait uniquement les marchandises en vrac ou dans des tonneaux. En fait, les premières tentatives d'utiliser des conteneurs en bois puis en acier, c'est au niveau du train aux États-Unis au début du XXe siècle, mais ça a pas pris. Et puis en fait, en 1956, on a un homme qui s'appelle Malcolm McLean, qui est un des plus gros transporteurs routiers américains. Et il en a marre des embouteillages gigantesques sur les autoroutes côtières pour les camions de son entreprise. Et du coup, il se dit qu'il gagnerait du temps en envoyant ses marchandises par bateau entre deux villes sur la côte est des États-Unis. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter un pétrolier. À l'époque, il y en avait pas mal qui restaient de la Seconde Guerre mondiale, qui était pas très cher. Et il l'a équipé en réfléchissant à la manière la plus efficace possible pour transporter ses marchandises. Et donc, il a opté pour le conteneur. Et donc, en fait, on a un peu le voyage inaugural. C'est le 26 avril 56. On a ce pétrolier qui quitte Newark dans le New Jersey chargé de 58 boîtes et qui accoste 5 jours plus tard à Houston pour un coût de 18 cents la tonne contre 5 dollars pour un vraquier. Donc on peut très bien s'imaginer qu'avec cette équation économique, cette boîte va rapidement essaimer partout dans le monde. D'abord sur l'Atlantique, puis l'océan Pacifique avec la guerre du Vietnam. Et puis petit à petit partout et aussi sur les liaisons ferrées. Mais plus que le conteneur, en fait, qui est donc cette simple boîte en fer ou en aluminium, la véritable innovation de ce Malcolm McLean, c'est que il va perfectionner les techniques de manipulation du fret. Donc, il va penser à des systèmes de verrouillage avec une manette à chaque coin du châssis, au vissage, au dévissage rapide de deux caisses qui sont empilées, à la manière pour les grues d'attraper le plus vite possible ces boîtes. Et c'est ça qui va permettre de charger et décharger au plus vite les marchandises et ainsi aussi d'automatiser davantage le transport maritime.
Ouais, vous le disiez, 58 containers sur ce premier bateau. Aujourd'hui, un navire comme l'Ever Given va en compter plusieurs milliers, je crois quasiment 20 000, ce qui est énorme, évidemment. La dernière grande crise du transport maritime, elle date de 2008. Comment est-ce que le port d'Anvers a traversé la crise sanitaire de 2020 ?
Mais pas trop mal, il y a eu une baisse de 2-3% du trafic total si on compte le vrac et le liquide. Mais côté conteneur, il y a même eu une petite hausse en fait de 1,4%. En fait, le port, il a bénéficié de plusieurs choses. C'est un port où il y a une grande paix sociale avec des travailleurs qui sont vraiment plutôt bien payés et qui fonctionnent avec un espèce de pool. Donc c'est un système assez fermé qui a d'ailleurs été critiqué par l'Union européenne mais qui fonctionne au quotidien assez bien parce que ça permet d'avoir un peu un système interne qui s'adapte aux pics d'activité ou au ralentissement. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu cette année, c'est que des fois, il y avait des pics avec plein de bateaux qui arrivaient, puis des fois, c'était plus calme. Et donc, ça permet une sorte de chômage interne pour les périodes plus lentes. Et donc, on a tous ces dockers qui sont disponibles. Et il y avait déjà une tendance des armateurs à privilégier le port d'Anvers, puisqu'il a aussi fait des gros travaux pour accueillir les navires de plus en plus larges. Il est aussi très bon dans l'évacuation des conteneurs par le fluvial et le rail, ce qui évite les embouteillages au niveau des camions. Donc là, comme il y avait beaucoup d'embouteillages dans certains ports, de plus en plus de retard, les armateurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sauté des escales pour se concentrer vraiment sur les ports qu'ils jugent les plus efficaces, mais aussi les ports dans lesquels ils ont investi. Puisque, en fait, les transporteurs maritimes, c'est de plus en plus des opérateurs de terminaux portuaires. Ils ont fait une sorte d'intégration verticale. Et c'est le cas de MSC, qui est le deuxième plus gros transporteur maritime mondial. C'est cette société italo-suisse qui possède un immense terminal à Anvers et qui a donc décidé de renforcer ses activités là-bas, de les concentrer pendant cette année 2020. Et l'autre chose qui a bénéficié à Anvers, c'est que c'est un port qui est moins dépendant du trafic entre l'Asie et l'Europe, qui était vraiment le trafic qui a été très embouteillé cette année. Et il est numéro un pour le trafic Europe, Amérique latine et Europe-États-Unis. Donc il y avait moins de problèmes de ce côté-là par rapport à d'autres ports, par exemple Hambourg, le port allemand, qui est très dépendant de la Chine.
Ouais, effectivement, tous les ports n'ont pas traversé la crise de la même façon. On pouvait craindre, notamment il y a un an, en mars, avec le blocage
quasi totale de l'économie mondiale et du commerce mondial, que cette pandémie ait un impact fort hein, sur cette activité. Il y a quand même quelque chose qui contrarie ou en tout cas qui complique la tâche des autorités portuaires, ce sont les contraintes sanitaires.
Oui, en fait, c'est très compliqué au niveau de l'équipage avec le Covid. Normalement, en fait, quand un porte-conteneur arrive dans un port, il attend à la station de pilotage. Et là, le port envoie son propre pilote pour aider le commandant du navire à entrer, à amarrer. Sauf que là, il y avait souvent des soupçons de Covid-19 et ça prend du temps d'avoir les résultats des tests. Donc en fait, les pilotes ne pouvaient pas monter à bord et donc ils devaient piloter le navire à distance depuis le remorqueur qui était devant le navire. Et puis après, s'il y avait des cas de Covid confirmés, ben, l'équipage ne pouvait pas débarquer, donc le bateau ne peut pas repartir, donc les navires attendent à quai plus longtemps, etc., etc. Donc ça a grandement compliqué la fluidité des flux.
Avant de retrouver Anaïs pour parler des difficultés du secteur, je voudrais faire une escale au service marché des Échos pour retrouver Étienne Goetz, spécialiste des matières premières, pour parler du Baltic Dry.
Alors le Baltic Dry, c'est un index, c'est-à-dire un indice financier qui donne une idée du prix du fret maritime en vrac sur une vingtaine de routes. Alors il faut vraiment bien comprendre de quoi on parle. Donc c'est le transport de matières premières en vrac, c'est-à-dire du minerai de fer, du charbon, des grains comme le soja, le maïs ou d'autres céréales. On ne parle pas de porte-conteneurs, on ne parle pas non plus de matières premières énergétiques comme le pétrole qui sont transportés dans des supertankers qui sont prévus spécialement pour ça. Donc c'est du transport maritime de matières premières en vrac sur une vingtaine de routes dans le monde. Donc on a à peu près tout ce qui existe en ce moment, donc de la Chine vers l'Europe, de la Chine vers le Brésil, et selon les matières premières, selon les besoins de chaque pays. Et puis on a, il y a trois sous-indices au moins dans cet indice, avec des bateaux dits capsize, des bateaux Panamax ou Supramax. Alors à chaque fois, c'est des bateaux qui sont plus ou moins grands. Le capsize, c'est le plus grand, plus de 100 000 tonnes de charge possible, et c'est un bateau qui passe pas par exemple les canaux de Suez ou de Panama. Le Panamax, lui, par contre, il peut passer le canal de Panamax. Donc ça nous donne une idée du coût du fret maritime, et ce coût du fret maritime, il dépend de deux choses, à la fois de l'intensité du commerce international du moment et de la disponibilité de bateaux. Pour faire simple, si personne n'achète rien et qu'il y a beaucoup de bateaux sur le marché, et ben l'indice tombe très bas. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au début de la pandémie, puisque plus personne, comme toutes les usines avaient été mises à l'arrêt, ben la Chine n'achetait plus de matières premières pour pouvoir produire de l'acier, du cuivre et d'autres matières premières. Et par contre, il y avait des nouveaux bateaux qui arrivaient sur le marché, et donc ça s'est complètement effondré, et l'indice capsize est même tombé en négatif pour la première fois de son histoire. Donc on a frôlé les zéros, et puis maintenant c'est un peu reparti.
Ça veut dire quoi un indice négatif dans ce cas, Étienne ?
Alors, ça veut dire que ceux qui vendent des bateaux perdent de l'argent, parce qu'ils ont trop de bateaux qui ne sont pas utilisés, et donc ça veut dire que si vous êtes armateur, que vous avez une flotte de bateaux, que vous les louez tous les jours, et dans ce contexte de marché où plus personne n'achète de matières premières, plus personne ne loue de bateaux, et en plus vous en avez comme ça 15, 10 ou 20 qui mouillent dans un port, et vous perdez de l'argent tous les jours.
Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui du trafic maritime, Étienne ?
Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il est tombé très 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 bas, proche de zéro, parce que tout ne s'est pas complètement arrêté. Hein. Les capsizes sont tombés en négatif, mais les Panamax et Supramax sont restés un peu au-dessus de zéro. Donc c'est tombé très très bas, et maintenant ça remonte, et on est à plus de 3000 points. Alors ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais l'indice est remonté au plus haut depuis 10 ans. C'est-à-dire que aujourd'hui, le transport de matières premières en vrac n'a jamais coûté aussi cher que depuis une dizaine d'années. Alors d'abord parce que il y a de nouveau une frénésie d'achat de matières premières, et notamment en Chine. La Chine achète vraiment tout ce qu'elle peut, du cuivre, du minerai de fer, du charbon de coke pour pouvoir transformer le minerai de fer en acier. La Chine, en 2020, a produit plus d'un milliard de tonnes d'acier. Donc vraiment, les usines chinoises, elles tournent à plein régime. La Chine achète tout ce qu'elle peut pour alimenter cette production. Par ailleurs, la Chine fait énormément de stocks et veut rétablir ses réserves. Et puis, ça, c'est du côté des métaux, et du côté des matières premières agricoles. C'est pareil, c'est la Chine. La Chine achète tout ce qu'elle peut, du soja, du maïs, du blé, ses réserves sont tombées très bas, donc il faut les reconstituer. Et puis, par ailleurs, il y a son cheptel de porc qui est lui aussi en train de se reconstituer. Il a été ravagé par une épidémie avant le Covid-19. Il y a une peste porcine africaine qui a décimé toutes les porcheries. Et petit à petit, là, il y a des porcs qui sont en train de naître. Et il faut les nourrir, ces bêtes. Et donc, la Chine achète du soja, du maïs et même maintenant du blé parce que le maïs devient trop cher. Donc, on a d'un côté le commerce international qui retrouve une intensité débordante comme on n'en a pas vu depuis quelques années. Et puis de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de nouveaux bateaux qui sont arrivés sur le marché, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir répondre à cette demande de fret maritime. Et puis par ailleurs, comme il y a des tensions extrêmes sur les porte-conteneurs, parfois on peut trouver une solution et utiliser un bateau de semi-vrac pour pouvoir transporter des marchandises que d'ordinaire on transportait sur des porte-conteneurs. Donc tout ça fait que le Baltic Dry Index remonte progressivement et que là, il se retrouve au plus haut depuis une dizaine d'années.
Pour vous donner une idée, le 20 mai dernier, l'indice Baltic Dry affichait un gain de près de 500% sur un an et de plus de 100% en 2021.
Les ports européens se préparent à des arrivées groupées de cargos après l'interruption de la circulation sur le canal de Suez. Les 6 jours de blocage sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde a affecté lourdement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Anvers est le 2e plus grand port d'Europe, le 13e à l'échelle mondiale. Les autorités portuaires s'attendent à des perturbations pour de nombreux mois.
6 jours de blocage sur le canal de Suez et l'impact pourrait se faire sentir un peu plus longtemps. À l'écoute de ce reportage d'Euronews, cela pourrait entraîner un embouteillage de 40 géants des mers devant le port d'Anvers, venant un peu plus compliquer l'équation pour le transport maritime. Anaïs, je reviens vers vous. On a vu avec Étienne que les cours du Baltic Dry s'étaient envolés. Ça concerne le transport de vrac. Comment ont évolué les prix des transports par conteneur?
Alors, le prix des conteneurs s'est envolé. Donc, on a certains prix. Des fois, ça a été multiplié par 5, par exemple, entre un Shanghai et Le Havre. À la fin de l'année dernière, au moment de Noël, c'était la folie. En fait, la raison pour laquelle ces prix s'envolent, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres de porte-conteneurs par rapport à la demande. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, donc quand la pandémie a démarré, il y a un an, on s'attendait à un effondrement de la consommation. Donc, les armateurs, ils se sont dit « Oulala, nos prix vont s'effondrer ». Donc en fait, ils ont retiré 30% de leur navire, 30% de leur capacité. Sauf qu'en fait, avec le soutien massif de l'économie par les gouvernements américains et européens, le pouvoir d'achat, il s'est pas effondré en fait. Et on a vu dès l'été des commandes de produits gigantesques, surtout fabriqués en Asie. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait plus assez de bateaux. Et donc, les prix, ils ont explosé. Et après, on rajoute là-dessus le fait qu'avec le Covid, dans les ports, il y avait un manque de personnel. Donc, il a commencé à y avoir des embouteillages dans les ports. Ce qui fait qu'on met plus longtemps à décharger les boîtes, ce qui aggrave la pénurie de conteneurs, puisqu'en fait, une boîte qui n'est pas déchargée à l'endroit, c'est une boîte qui ne peut pas être chargée ailleurs. Donc, la pénurie augmente, donc les prix aussi. Ben voilà, ça crée un cercle vicieux comme ça, où petit à petit, les prix augmentent de manière assez délirante.
Oui, vous parliez de pénurie de conteneurs, une gestion plus complexe dans les ports, on l'a vu. Ça s'ajoute à un autre problème aussi dans certains pays et qui gêne la fluidité et qui est importante dans ces conditions, c'est la pénurie de chauffeurs routiers.
Oui, y avait déjà une pénurie de chauffeurs routiers avant le Covid. Hein. C'est un métier qui est pénible et qui peine à recruter, notamment aux États-Unis. Et ça a été aggravé par la pandémie, puisque ça a créé pour beaucoup de gens des difficultés. Des fois, ils devaient garder leurs enfants. Enfin, les gens ont dû... Voilà, ça fait qu'il y avait quand même moins de main-d'œuvre. Donc, les conteneurs mettent énormément de temps à quitter le port. Et une fois qu'ils arrivent à l'entrepôt, ils y restent longtemps, parce qu'il n'y a pas toujours de camionneurs pour les ramener. Donc, ça aggrave la pénurie de conteneurs.
Alors, ces problèmes rencontrés par le transport maritime ne sont pas sans conséquence pour les entreprises. On pense notamment à celles qui exportent ou importent des produits frais.
Oui, ça a eu beaucoup de conséquences. Moi, j'ai parlé à la directrice générale d'une société qui s'appelle Eurodéluis, qui est une entreprise française qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est basée à Rungis et qui exporte des fromages comme les marques Président ou Société ou des biscuits comme la marque Gerblé. vers le Maghreb, vers l'Asie, vers les Émirats Arabes Unis. Elle me racontait qu'elle a vu son coût de transport passer de 7 à 20% de son chiffre d'affaires en un an. Donc elle était obligée en fait d'augmenter le prix de certains produits qui pouvaient supporter une petite hausse, 30-40 centimes de plus comme le miel, et de créer des conteneurs où elle panachait ses produits avec d'autres à moins forte valeur ajoutée qu'elle pouvait pas augmenter, par exemple le pain en tranche jaquet. Donc ça, en fait, ça avait aussi un coût opérationnel important pour elle, parce qu'en fait, jusqu'ici, elle envoyait les produits directement à la sortie de l'usine du fabricant dans des conteneurs monoproduits. Et là, en fait, maintenant, elle doit tout rapatrier dans un entrepôt qu'elle a loué et mélanger ses produits pour essayer de trouver une équation économique qui fonctionne pour elle. Et puis avec les embouteillages, en fait, dans les ports, il y a des produits avec des dates de péremption qui sont assez courtes, comme le Roquefort, qui deviennent compliqués à exporter, parce qu'en fait, en plus du mois de transport de la France vers le Vietnam, par exemple, bah là, le fromage, il va passer un mois supplémentaire à attendre dans le port pour être déchargé. Et donc, bah, ça devient assez compliqué pour un produit qui a une date de péremption de 3 mois, par exemple.
Fromage ! Fromage ! Miam,
miam ! Georges adore le fromage.
Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez.
Oh ! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse.
Donc voilà, ça c'est un exemple d'exportateur qui a été très affecté. Côté importateur, j'ai parlé au président d'une entreprise qui s'appelle Batimex, qui est une société près de Marseille qui achète des luminaires et du mobilier pour décorer le jardin en Chine, pour les revendre à des enseignes comme Leroy Merlin. Et lui, il a vu le prix d'un trajet entre Shanghai et Le Havre passer de 2000 à 10 000 dollars pour un conteneur. Donc, c'était très difficile. On a aussi toutes les entreprises qui importent des pièces détachées. Par exemple, dans les vélos, tous les cadres sont produits en Chine. Donc, toutes ces entreprises-là ont été très, très affectées.
Et on voit que ce n'est pas sans conséquence, effectivement, pour les entreprises. J'ose imaginer le Roquefort bien mûr qui arrive à destination au Vietnam après 2 mois passés dans un conteneur. Ça ne doit pas sentir très bon. On a parlé des ports, mais les vrais gagnants de la crise, ils sont ailleurs, ce sont les armateurs.
Oui, tout à fait. Ils ont vu leurs bénéfices exploser. En fait, l'estimation, c'est que entre différents armateurs, ils ont embauché 15 milliards de dollars de bénéfices en 2020, soit le double des 5 années précédentes. Et ça continue encore plus fort cette année. Le Danois Maersk, le numéro 1 mondial des transporteurs maritimes, a présenté ses résultats juste là du premier trimestre. Et son bénéfice au premier trimestre, il représente l'équivalent de quasiment celui de toute l'année 2020. Il est 13 fois supérieur à celui du premier trimestre de l'année passée. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette situation, elle suit des années de disette, où la plupart des armateurs, ils étaient juste à l'équilibre ou à peine. Parce qu'en fait, à partir de 2006, il y a eu une course au gigantisme avec des commandes de navires voilà, 400 mètres de long, etc. Parce qu'il y avait une prévision d'échanges internationaux qui serait toujours en très très forte croissance. Mais là-dessus, 2 ans plus tard, il y a la crise de 2008. Et après cette crise, en fait, la demande, elle n'a pas vraiment retrouvé sa vigueur d'avant. Donc, les armateurs, ils étaient en surcapacité avec ces gigantesques bateaux et une demande qui n'était pas si forte que ça. Et donc, les prix se sont écroulés. On a eu des armateurs qui ont fait faillite, comme le sud-coréen Hanjin Shipping. Beaucoup, ils ont survécu seulement grâce aux prêts garantis par des États comme la CMA, CGM en France. Donc voilà, il faut avoir en tête cette situation. Et la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que les prix qui sont très élevés qu'on voit maintenant, c'est juste le reflet de l'offre et de la demande, ou est-ce qu'ils sont maintenus artificiellement hauts? Et ça, c'est un peu l'attaque des chargeurs et des commissionnaires de transport envers les armateurs. Et ils demandent à la Commission européenne d'ouvrir une enquête, notamment parce qu'en fait, au-delà du simple prix du transport, ils ont aussi énormément de surcharges. En fait, les entreprises qui gardent le conteneur plus longtemps que prévu dans le terminal portuaire ou à l'extérieur, parce que tout le système il est désorganisé, ben les armateurs, en fait, pour chaque journée supplémentaire, ils leur facturent une surcharge. Donc, ils demandent à la Commission de regarder de plus près, sachant que les États-Unis ont ouvert une enquête en octobre et que la Chine et la Corée du Sud, ils ont également haussé le ton sur cette question.
Ouais, qu'est-ce que les armateurs répondent à ces attaques?
Alors, eux, ils réfutent complètement ces accusations. Hein. Ils soulignent, et c'est le cas, qu'ils ont, dès l'automne, remis sur l'eau tous les navires disponibles. Donc, ils sont au maximum de leur capacité, qu'ils ont passé aussi commande pour des nouveaux porte-conteneurs, mais que ça se fait pas du tout en 3 mois. Donc, ils vont pas pouvoir vraiment augmenter leur offre plus que ça de manière immédiate. Et eux, ils disent que les prix, voilà, c'est le reflet de l'offre et de la loi et de la demande, et que toutes ces entreprises, elles ont beau jeu de s'en plaindre, parce que grâce à cette même offre de la loi et de la demande, elles ont bénéficié pendant une décennie de taux extrêmement bas. Et ce qu'elle souligne aussi, c'est que les entreprises qui souffrent, ce sont celles qui refusent de passer des contrats long terme avec un prix garanti pour préférer le marché qu'on appelle spot, donc qui est le marché avec un prix qui change chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Et donc, elles disent, si ces entreprises sont prêtes à s'engager, elles auront de meilleurs prix, elles auront une meilleure fiabilité, elles seront sûres d'avoir une place. Mais en fait, ce qui est difficile aujourd'hui pour les PME et les TPE, c'est qu'elles sont prises en étau entre ces transporteurs maritimes qui leur demandent de s'engager à long terme et de l'autre, une imprévisibilité du côté de la demande à cause de la situation sanitaire, de la difficulté de savoir si les magasins vont rouvrir, etc. Donc, c'est assez difficile pour elles de s'engager sur un an comme une grande entreprise comme Carrefour, par exemple.
Et justement, comment est-ce que les entreprises qui font aussi face à une augmentation de beaucoup de coûts, je pense au coût des matières premières, par exemple, comment les entreprises s'adaptent à ces contraintes?
Alors, elles essayent pour certaines de plus en plus de louer directement leurs propres conteneurs pour ne plus être dépendantes de ces désarmements et ne pas subir les surcharges dont je parlais si elle les garde plus longtemps. C'est par exemple ce qu'a fait le commissionnaire de transport spécialiste en vin et spiritueux Hillebrand, à qui les marques comme Moët & Hennessy ou Pernod Ricard ont confié le transport de leur vin et spiritueux vers les États-Unis, par exemple. Sinon, elles font aussi appel à des startups qui essayent de les aider à accélérer le transport ou avoir plus de visibilité. Par exemple, il y a Wakeo, qui est une startup qui a été créée il y a 3-4 ans, qui rassemble différentes données pour faire des simulations et voir les retards et à partir de là proposer d'autres options, par exemple l'avion ou le train. Et on a vu en effet de plus en plus d'entreprises qui m'ont dit « on a essayé de se tourner vers l'avion ». Donc l'avion, ça représente encore une part assez faible du transport de marchandises, c'est 5-6%. Mais en fait, c'était pas évident non plus parce que cette année, la majorité des avions passagers n'ont pas volé. Et en fait, la moitié du transport de marchandises par avion se fait normalement dans les soutes des avions passagers. Donc, il n'y avait pas énormément de place. Alors, ça a relancé l'activité des avions cargo, donc des avions qui sont dédiés au transport de marchandises, très utilisés par DHL, FedEx ou aussi Amazon, qui a sa propre flotte. L'autre option, c'est le train. Et donc là, c'est quelque chose que la Chine a beaucoup développé vers l'Europe dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie. Mais ça reste encore des volumes qui sont pas très importants par rapport aux navires gigantesques. Par exemple, en fait, si on prend les mois de janvier et de février, on a eu 2000 trains de fret entre la Chine et l'Europe. Ils ont transporté 200 000 conteneurs, un peu plus de 200 000 conteneurs. C'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque, mais ça représente seulement l'équivalent de 10 gros porte-conteneurs. Donc, c'est pas du tout grand-chose. Il faut avoir en tête qu'il y a 6 000 porte-conteneurs sur les océans. Ça convient pas à toutes les marchandises parce que ça se coupe plus sur les rails, etc. Donc voilà, ils ont essayé, il y a des entreprises qui ont essayé toutes ces solutions, mais au final, elles me disent toutes que ça permet pas de remplacer le volume qu'elles envoient par les porte-conteneurs. Oh, mon bateau,
si je comprends bien, le transport par bateau aujourd'hui reste incontournable?
Oui, c'est 90% des marchandises qui sont transportées par bateau. Et ça reste difficile de faire sans. Il y a beaucoup de discussions dans les équipes supply chain des entreprises pour relocaliser, parce que quand on voit que ça devient aussi compliqué et aussi cher, elles se disent « mais est-ce que ça a encore un sens ?» Ça se fait un peu en Europe, on l'a vu dans le textile par exemple, avec un recentrage vers l'Espagne, le Portugal, par rapport à des pays asiatiques. Mais ça reste difficile de trouver les savoir-faire locaux qui ont disparu parce qu'on a investi pendant des décennies en Asie et le coût de la main-d'œuvre reste plus important qu'en Asie. Donc pour le moment, ça se fait pas énormément. Ça se fait sur des produits un peu haut de gamme. Par exemple, je parlais à Palladium, qui est au départ donc cette entreprise de basket qui était située en France, mais depuis 20 ans, qui a quasiment tout délocalisé en Asie. Donc là, ils essayent de développer une petite production au Portugal, mais donc pour des chaussures en cuir un peu plus haut de gamme qui peuvent supporter le coût supplémentaire de la main-d'œuvre. Donc voilà, mais les exemples restent quand même rares, donc c'est pas tout de suite qu'on va se passer des porte-conteneurs.
Merci Anaïs Moutot et Étienne Gutz des Échos pour ce périple dans le secteur maritime face à la tempête du Covid. Et à défaut de pouvoir encore partir loin de la mer, je vous conseille une lecture, Voyager en cargo de Mathilde Giard et Françoise de Tailly. Elles ont rencontré 24 personnes qui ont tenté l'expérience d'un voyage sur un bateau au même rythme que les marins, dans des cabines un peu moins spartiates quand même. Une autre façon de voyager, même si vous avez sans doute comme moi plutôt envie de grands espaces sur le plancher des vaches. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.